VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Ouagadougou, 15h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, un douanier burkinabé a été tué jeudi soir dans une attaque menée contre un poste de gendarmerie à Djibasso, localité de l'ouest du pays, frontalière du Mali. C'est ce qu'a indiqué un responsable local à l'AFP ce vendredi. 6 individus armés à bord de motocyclettes ont attaqué aux environs de 21h30 universel et heure locale le poste de gendarmerie de Djibasso, situé à 20 km de la frontière malienne, a déclaré le haut commissaire de la préfecture de Kossi, Alfred Wanré, qui s'est rendu sur place. Le douanier a été atteint par une balle alors qu'il était assis non loin du poste de gendarmerie au moment de l'attaque. Et 3 motos ont été incendiées par les assaillants, a souligné le préfet Wanré, en précisant que les agresseurs ont été repoussés en direction de Kouna, en territoire malien. Un détachement militaire burkinabé a été envoyé en renfort sur place. On ignore toujours l'identité des assaillants. Frontalier du Mali et du Niger, le nord du Burkina Faso est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015. Au Kenya, la Cour suprême a invalidé ce vendredi la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta au scrutin du 8 août en raison d'irrégularités. Elle a ordonné la tenue d'un nouveau vote dans les 2 mois à venir. C'est une journée historique pour le peuple kényan, a réagi l'opposant Raila Odinga à l'annonce de cette décision. Le président Kenyatta avait été déclaré vainqueur par 1 400 000 voix de suffrage d'écart, mais Raila Odinga, chef de file de l'opposition, avait crié à la fraude massive après l'annonce des résultats. Et le 18 août, la coalition de l'opposition avait déposé un recours devant la Cour suprême pour contester les résultats du scrutin. Politique au Rwanda, les proches de l'opposante rwandaise Diane Shima Rwigara, qui n'avait pas été autorisé à se présenter à la récente présidentielle au Rwanda, affirme être sans nouvelles d'elle depuis mardi dernier. Selon son frère Aristide Rwigara, établi ici aux États-Unis, sa sœur et 4 autres membres de la famille ont été arrêtés et amenés mardi vers une destination inconnue après une perquisition de la police à leur domicile à Kigali, au Rwanda. On écoute Aristide Rwigara.
Ils ont été au lieu de travail de Diane, ils l'ont ramené à la maison en menottes. On leur a tous mis les menottes au poignet dans la maison et ils ont commencé à fouiller la maison entière. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient trouver, y inclus tout l'argent, tous les bijoux.
Comme vous n'êtes pas sur place, comment avez-vous pu confirmer cette information?
Il y a un témoin qui a vu tout ça. Pour le protéger, je ne peux pas dire qui il est, mais je suis certain de l'information.
Avez-vous eu les nouvelles de votre famille depuis mardi?
Non, monsieur, je n'ai pas su les joindre depuis mardi. Leurs téléphones sont coupés. La police a passé toute la journée à fouiller la maison et puis les ont emmenés vers la fin de la journée.
Mais la police rwandaise dément avoir procédé à des arrestations tout en admettant avoir perquisitionné le domicile à Kigali dans le cadre d'une enquête sur une affaire d'évasion fiscale et de contrefaçon. Votre réaction?
La police est en train de mentir. Ils sont en train de mentir. C'est pas la première fois. C'est pas la dernière fois, ils sont en train de mentir. Cette histoire de taxe-là, ils ont inventé ça le jour où ma sœur a lancé son mouvement. C'est une tactique de répression parce que ma sœur les a exposés. Donc, ils sont en train d'essayer de ruiner ma famille.
Aristide Rwigara, frère de l'opposante rwandaise Diane Rwigara, joint par Jacques Aristide à Los Angeles en Californie. Au Congo-Brazzaville, victoire du Parti congolais du travail PCT, formation au pouvoir, au vote pour l'élection des sénateurs en vue de parachever la mise en place du Parlement. Le PCT a obtenu 44 élus sur 66 sièges en jeu lors de ce scrutin au suffrage indirect, selon les résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur Raymond Zéphirin Mboulou à la télévision d'État. Le parti du président Denis Sassou Nguesso a réalisé un carton plein dans tous les départements du centre et du nord du pays, considéré comme le fief électoral du chef de l'État, réélu en 2016 et qui cumule près de 33 ans au pouvoir. Les grands électeurs, 1100 conseillers municipaux et départementaux, ont voté dans 11 des 12 départements du pays, mais le vote n'a pas pu être organisé dans le pool. Région du Sud, proche de la capitale, en raison de la situation d'insécurité due aux violences qui y ont éclaté après la présidentielle contestée de 2016. En RDC, les autorités ont promis hier de publier incessamment un calendrier électoral réaliste après avoir recensé plus de 40 millions d'électeurs. Les détails avec Jacques Aristide.
L'information provient d'un communiqué commun émis par la Commission électorale nationale indépendante, ou la CENI, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadari, et le Conseil national de suivi de l'accord de paix. La CENI dit disposer des éléments susceptibles de lui permettre de procéder à l'élaboration d'un calendrier électoral. Sur cette base, elle s'engage à publier bientôt ce calendrier. L'accord pouvoir-opposition du 31 décembre 2016 prévoit des élections avant fin 2017 pour le départ et la succession du président Joseph Kabila, qui ne peut plus se représenter depuis la fin de son deuxième mandat le 19 décembre. Les trois autorités signataires indiquent avoir évalué le processus électoral pendant une réunion de 4 jours à Kananga. L'enregistrement des électeurs a déjà eu lieu dans 24 des 26 provinces de la RDC. Le communiqué confirme que l'enrôlement dans les 2 dernières provinces du Kasaï commencera le lundi 4 septembre. Ces 2 provinces sont le théâtre de violences depuis 1 an. Kinshasa appelle la communauté internationale à soutenir financièrement le processus électoral et demande également l'assistance de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, particulièrement sur les volets techniques, logistiques et sécuritaires.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, le gouvernement camerounais très ferme à l'égard des médias diffusant des informations sur l'indépendance des 2 zones anglophones du pays. Cette semaine, les autorités ont arrêté plusieurs distributeurs locaux de chaînes de télévision pour avoir relayé des émissions de médias en ligne. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé vous est présenté par Eric Manirakiza.
Un distributeur de chaînes de télévision à Yaoundé a fait 4 jours de détention pour avoir relayé des images d'un média en ligne, Southern Cameroun Broadcasting Corporation, SCBC. Les intervenants plaidaient pour l'indépendance des 2 zones anglophones du pays. En juillet, le gouvernement a interdit de partager des messages de groupes sécessionnistes. Un des distributeurs à Yaoundé a déclaré qu'il a été libéré après un avertissement du ministre de la Communication, Issa Chiroma. Plusieurs autres distributeurs de SCBC ont également été libérés. Néanmoins, M. Chiroma reste inflexible.
This is not a joke.
Ce n'est pas une blague, c'est l'avenir commun de notre nation. Ce qui est en jeu ici, c'est que nous soyons Camerounais ici. Nous ne pouvons pas plaisanter avec ça.
La crise a commencé en novembre avec la grève des avocats et des enseignants anglophones pour exiger les réformes. Les autorités ont coupé pendant 3 mois tout accès à Internet dans les zones en proie à des violences. Au moins 30 organisations de médias ont été suspendues ou fermées. Et 8 journalistes envoyés en prison. Ils sont poursuivis pour diffusion d'informations susceptibles d'entraîner des troubles sociaux. Pour le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, Denis Kwebo, ces arrestations violent la liberté de la presse.
Nous avons rappelé à nos collègues qu'ils doivent se conformer à l'éthique de notre profession. Nous avons engagé nos membres à agir en solidarité. Nous avons demandé la libération de nos collègues qui ont été arrêtés au sud-ouest et au nord-ouest et sont actuellement détenus.
Mais Peter Essoka, président du Conseil national de la communication, affirmait que le gouvernement demeure ferme.
Un journaliste est le chien de garde de la société. Et si le chien de garde donne de faux signaux, je vous le dis, il peut plonger le pays dans le chaos.
Cette année, la Maison de la presse du Cameroun et Reporters sans frontières ont indexé Yaoundé dans leurs indices annuels sur la liberté de la presse. La Maison de la presse a donné au Cameroun le statut de prédateur.
Relations États-Unis-Russie, le gouvernement américain a donné jusqu'à samedi à la Russie pour fermer son consulat général à San Francisco ainsi que 2 annexes de ses services à Washington et New York. Moscou n'a pas tardé à réagir, Bagassi Koura.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré regretter l'escalade de tensions entre Moscou et Washington, initiée selon lui par les États-Unis après la fermeture du consulat général russe de San Francisco dans l'ouest du pays, ainsi que de 2 annexes de ses services à Washington et à New York. Ces mesures américaines ont été prises en riposte à la réduction drastique du personnel des représentations diplomatiques américaines en Russie, 755 au total.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.